Quand j'étais tout minot, je devais avoir 3 ou 4 ans, un oncle bourré m'a raconté l'histoire du petit chaperon rouge. Pas le conte de fées classique, mais la version gore, pleine de cris, de sang et des chocs sourds de la hache du bûcheron. J'en ai gardé un souvenir extraordinairement vivant, mais seuls quelques détails me restent. Les dents du loup découvertes en un sourire luisant, par exemple, et la grand-mère, toute gluante de sang, renaissant de son ventre béant. C'est ma façon de vous dire que, si vous attendiez l'histoire alternative du monde telle que racontée par Harry Dunning à J.K. Epping, oubliez. C'était pas juste l'horreur de découvrir à quel point les choses avaient mal tourné. C'était mon besoin urgent de repartir pour arranger tout ça. Pourtant, un certain nombre de choses se détachent du récit. La vie de recherche de George Amberson à l'échelle mondiale, par exemple. Ça ne m'a procuré aucune joie. George avait disparu aussi sûrement que le juge Crater. Mais dans les 48 années écoulées depuis la tentative d'assassinat de Dallas, Amberson était devenu un personnage quasi mythique. Sauveur ou élément du complot ? Les gens participaient à des colloques pour en discuter. Et en écoutant Harry me raconter ça, je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les théories du complot qui avaient fleuri autour de la version temporelle de Lee qui avait réussi. Comme vous le savez maintenant, classe attentive, le passé s'harmonise. 64. Kennedy s'attend à balayer Barry Goldwater dans un raz de marée électorale, mais il l'emporte par moins de 40 voix de grands électeurs, une marge que seuls les piliers du Parti démocrate estiment respectable. Au début de son second mandat, il se met à dos tant les électeurs de droite que la hiérarchie militaire, en déclarant que le Nord-Vietnam représente un danger moins grand pour notre démocratie que l'inégalité raciale dans nos écoles et dans nos villes. Il ne retire pas tous les soldats américains, mais ils sont cantonnés à Saïgon et dans un périmètre autour de la ville qui est appelé, surprise, surprise, la zone verte. Au lieu d'injecter de grandes quantités de soldats, le second gouvernement Kennedy injecte de grandes quantités de fric. C'est la façon de faire américaine. Les grandes réformes des droits civiques des années 60 ne voient jamais le jour. Kennedy n'est pas LBJ. Et en tant que vice-président, Johnson est exceptionnellement impuissant à l'aider. Les républicains et les dixiecrates font de l'obstruction parlementaire pendant 110 jours. Un représentant meurt même sur place, devenant ainsi un héros de la droite américaine. Lorsque Kennedy finit par capituler, il lâche étourdiment une remarque qui le hantera jusqu'à sa mort en 1983. L'Amérique blanche a rempli sa maison de petits bois. Maintenant, elle va la regarder brûler. Les émeutes raciales surviennent ensuite. Alors qu'elles constituent la préoccupation majeure de Kennedy, les armées nord-vietnamiennes envahissent Saigon. Et l'homme qui m'avait embarqué dans cette histoire se retrouve paralysé à la suite d'un accident d'hélicoptère sur le pont d'un porte-avions américain. L'opinion publique commence à se retourner impitoyablement contre JFK. Un mois après la chute de Saïgon, Martin Luther King est assassiné à Chicago. L'assassin s'avère être un agent du FBI corrompu, un dénommé Dwight Hawley. Avant d'être assassiné à son tour, il prétendra avoir agi sur les ordres de Hoover. Chicago s'embrase, ainsi qu'une dizaine d'autres villes américaines. George Wallace est élu président. À cette époque, les tremblements de terre ont déjà sérieusement commencé. Wallace ne peut rien y faire, alors il se rabat sur Chicago, qu'il mate à la bombe incendiaire. « Ça, me précisa Harry, c'était en juin 1969. » Un an plus tard, le président Wallace présente un ultimatum à Ho Chi Minh. « Accepter de faire de Saïgon une ville libre, comme Berlin, ou voir Hanoï se transformer en une ville morte, comme Hiroshima. » L'oncle Ho refuse. S'il pensait que Wallace bluffait, il avait tort. Hanoï se transforme en nuage radioactif le 9 août 1969, soit 24 ans jour pour jour après que Harry Truman a fait larguer Fat Man sur Nagasaki. Le vice-président Curtis LeMay se charge personnellement de la mission. Dans une adresse à la Nation, Wallace qualifie ce bombardement de volonté de Dieu. La cote de Wallace est haute et la plupart des Américains lui donnent raison. Mais un homme au moins n'approuve pas. Il s'appelle Arthur Bremer et le 15 mai 1972, il abat Wallace dans un centre commercial de Laurel dans le Maryland en pleine campagne électorale pour sa réélection. Avec quel type d'arme ? Je crois que c'était un Smith & Wesson calibre 38. À tous les coups. Peut-être un Special Police, modèle Victory, le même que celui qui avait ôté la vie de l'officier de police Tippit le long d'une autre corde temporelle. C'est là que j'ai commencé à perdre le fil. Là qu'a commencé à résonner dans ma tête comme un gong, « Je dois réparer ça. Je dois réparer ça. » Je dois réparer ça. Hubert Humphrey devient président en 72. Les tremblements de terre empirent. Le taux de suicide mondial monte en flèche. L'intégrisme religieux de tout poil se développe. Le terrorisme fomenté par des extrémistes religieux se développe avec lui. L'Inde et le Pakistan entrent en guerre. D'autres champignons atomiques s'épanouissent. Bombay ne deviendra jamais Mumbai, mais un tapis de cendres radioactives sous un vent porteur de cancer. Même chose pour Karachi. Ce n'est que lorsque la Russie, la Chine et les États-Unis promettent de ramener les deux pays à l'âge de pierre sous les bombardements nucléaires que les hostilités cessent. En 1976, Humphrey perd face à Ronald Reagan dans un raz-de-marée électoral qui submerge les États-Unis d'une côte à l'autre. Hump est même désavoué dans son Minnesota natal. 2000 personnes se suicident en masse à Johnstown, dans le Guyana. En novembre 1979, des étudiants iraniens envahissent l'ambassade américaine de Téhéran et prennent non pas 70, mais plus de 200 otages. Des têtes roulent en direct à la télévision iranienne. Reagan, qui a suffisamment appris dans l'enfer d'Hanoï, a le bon sens de laisser les gadgets nucléaires dans leurs soutes à bombes et autres silos de missiles. Mais il envoie une cargaison de soldats. Bien sûr, les derniers otages sont abattus. Et un nouveau groupe terroriste se faisant appeler la base, ou en arabe Al-Qaïda, commence à poser des bombes à droite et à gauche, par-ci par-là, et un peu partout. Pour faire de beaux discours, ce fils de pute était fort. Mais pour ce qui était de comprendre l'islam militant, zéro, commenta Harry. Les Beatles se reforment pour donner un concert pour la paix. Un kamikaze se fait exploser dans le public, tuant 300 personnes. Paul McCartney perd la vue. Le Moyen-Orient s'embrase peu après. La Russie s'effondre. Des inconnus, probablement la ligne dure d'un groupe d'exilés russes fanatiques, commence à vendre des armes nucléaires à des groupes terroristes, y compris à la base. « Il n'a pas fallu attendre longtemps. 1994, » précisa Harry de sa voix froidement objective, « pour que les champs de pétrole là-bas ne soient plus que des étendues de verre noir, du genre qui brille dans l'obscurité. » Mais depuis... Le terrorisme s'est, comme qui dirait, consumé lui aussi. Quelqu'un a fait exploser une valise nucléaire à Miami, il y a 2 ans, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Je veux dire, il ne faudra attendre que 60 ou 80 ans avant de pouvoir de nouveau faire la fête sur South Beach. Et bien sûr, le golfe du Mexique n'est plus qu'un bouillon mortel, mais il n'y a eu que 10 000 morts par irradiation. C'est déjà plus notre problème. Le Maine avait voté son intégration au Canada, et Clinton, à la présidence, n'a fait ni une ni deux et nous a dit bon débarras. Bill Clinton est président ? Oh, mon Dieu, non ! Il partait favori pour l'investiture démocrate en 2004, mais il est mort d'une crise cardiaque pendant la convention. C'est sa femme qui a pris la relève. Elle est présidente. Elle fait du bon boulot? Harry agita la main. Coussi coussa. Pas mal. Mais tu peux pas légiférer contre les tremblements de terre. Et c'est ça qui va nous engloutir à la fin. Au-dessus de nos têtes, ce qui ressemblait à une grande déchirure liquide a retenti de nouveau. J'ai levé les yeux. Harry, non. « C'est quoi ?» j'ai demandé. « Fils, » m'a-t-il dit. « Personne n'a l'air de le savoir. Les scientifiques débattent, mais pour une fois, je pense que les prédicateurs pourraient bien avoir raison. Ils disent que c'est Dieu qui s'apprête à détruire toutes les œuvres issues de sa main, comme Samson a détruit le temple des Philistins. » Il a bu le reste de son whisky. Un peu de couleur avait fleuri sur ses joues qui, pour autant que je pouvais le voir, étaient exemptes de plaies dues aux radiations. « Et pour ça, je pense qu'il y a des chances qu'il ne se trompe pas. »« Seigneur Tout-Puissant, » j'ai fait. Il m'a regardé sans ciller. « Entendu assez d'histoires comme ça, fils ?»« Assez pour le restant de mes jours. » « Je dois partir, » j'ai dit. « Vous, ça va aller ?»«
Ah, jusqu'à ce que ça aille pas, comme tout le monde. »
Il me dévisagea attentivement.
« Jake, d'où tu débarques comme ça ? Et pourquoi diable est-ce que j'ai l'impression de te connaître ?»«
Peut-être parce qu'on connaît toujours ces bons anges. »«
Conneries !»
Je voulais déjà être parti. L'un dans l'autre, je pensais que ma vie, après la prochaine remise à zéro, allait être beaucoup plus simple. Mais avant toute chose, parce que cet homme était un type bien qui avait beaucoup souffert dans chacune de ses trois incarnations, je suis retourné à la cheminée où j'ai pris l'une des photos encadrées.
« Attention avec ça !»
m'a fait Harry avec humeur. « C'est ma famille !»«
Je sais. »
J'ai posé la photo dans ses mains noueuses et tavelées par l'âge. Une photo en noir et blanc, qui, à en juger par son aspect légèrement flou, était un agrandissement d'un cliché Kodak. « C'est votre père qui l'a prise ? Je vous demande ça parce qu'il est le seul à ne pas être sur la photo. » Il me regarda curieusement avant de reposer les yeux sur l'image.
« Non, »
dit-il. « Elle a été prise par une voisine pendant l'été 58. » Mon père et ma mère étaient séparés à l'époque. Je me suis demandé si la voisine en question était celle que j'avais vue fumer une cigarette en lavant la voiture familiale et en aspergeant le chien. Quelque chose me disait que oui. De très loin dans mon esprit, comme un son se répercutant sur les parois d'un puits profond, sont remontés les scansions des petites sauteuses à la corde.
« Mon papa conduit un sous-marin. »
Il avait un problème avec l'alcool. On n'en faisait pas tout un plat à l'époque. Beaucoup d'hommes buvaient trop et continuaient à vivre sous le même toit que leur femme, mais lui, il avait l'alcool mauvais.
« Je vous crois, » j'ai dit.
Il m'a regardé de nouveau avec plus d'intensité, puis il a souri. La plupart de ses dents avaient disparu, mais son sourire était encore très sympathique.
« Je doute que tu saches de quoi tu parles. » « T'as quel âge, Jake ?»«
40. » Même si j'étais sûr de paraître plus vieux ce soir-là.
« Ce qui signifie que tu es né en 1971. »«
En fait, j'étais né en 1976. » Mais comment le lui dire sans évoquer les 5 années manquantes dégringolées dans le terrier, comme Alice dans le Pays des Merveilles ?«
À peu près, » j'ai dit. « Cette photo a été prise à la maison de Cossett Street. »
Prononcé Cossett, comme à Derry. J'ai tapoté Ellen, debout à gauche de sa mère, en pensant à la version adulte que j'avais eue au téléphone, appelons-la Ellen 2.0. Pensant aussi, comment faire autrement, à Ellen Docherty, la version harmonique que j'avais connue à Jody. Difficile à dire d'après cette photo, mais c'était une petite rouquine, non ? Une petite Lucille Ball miniature ? Harry, bouche bée, ne répondit rien. Est-ce qu'elle a fait carrière dans la comédie ou autre, radio ou télévision?
Elle anime une émission sur Radio-Canada, province du Maine, a-t-il dit d'une voix faible.
Mais comment?
Et voici Troy. Et Arthur, connu aussi sous le nom de Touga. Et vous voici avec le bras de votre mère autour de vos épaules.
J'ai souri. Exactement comme Dieu l'avait prévu. Si seulement cela avait pu demeurer ainsi. Si seulement.
Je... Vous...
Votre père a été assassiné, n'est-ce pas?
Oui.
La canule l'avait dévié dans son nez et il l'a redressé d'une main lente, comme un homme qui rêve les yeux ouverts. Il a été abattu dans le cimetière de Longview alors qu'il apportait des fleurs sur la tombe de ses parents. Quelques mois à peine après la prise de cette photo. La police a arrêté un homme du nom de Bill Turcotte.
Aïe! Je l'avais pas vu venir, celle-là.
Mais il avait un solide alibi et finalement, ils ont dû le relâcher. L'assassin n'a jamais été retrouvé. Il a pris une de mes mains.
Monsieur, fils, Jake, ce que je vais te dire est fou, mais c'est vous qui avez tué mon père?
Ne dites pas de bêtises. J'ai pris la photo et l'ai raccrochée au mur.
Je n'étais pas né.
Je ne suis pas arrivé avant 1971, vous vous souvenez ?